C'est moi. Cela faisait 5 ans qu'il disait le contraire. Aujourd'hui, Cédric Jubilat reconnaît être à l'origine de la mort de sa femme, Delphine. Il fait le récit d'une dispute qui a dégénéré. Il se dit désormais prêt à livrer l'ensemble des détails à la justice. Dans la deuxième partie de cet épisode, je reçois une avocate, Maître Carole Maslia, car ce sont les avocats de Cédric Jubilat qui ont recueilli ses aveux. Alors je l'interroge, comment ont-ils pu réaliser en quelques mois ce que les enquêteurs ont échoué à faire en plusieurs années? Pourquoi se sont-ils chargés de cela et quelles sont désormais les conséquences judiciaires de ces aveux alors que le procès en appel est imminent, il est prévu pour le mois de septembre. Je suis Zachary Legros, vous écoutez Le Titre à la Une, le podcast d'actualité de BFM. Bienvenue.
Un jour, il y a quelques semaines, il m'a dit « Écoutez, maître, il faut que je vous dise la vérité, c'est moi. C'est moi qui suis à l'origine de la disparition de ma femme. »
La voix que l'on entend, c'est celle de Pierre Debuisson, l'avocat de Cédric Jubilat. L'homme, âgé de 39 ans, a finalement reconnu avoir tué son épouse Delphine dans la nuit du 15 au 20 décembre 2020, dans leur maison de Cagnac-les-Mines, dans le Tarn. Il l'écrit dans une lettre adressée à ses avocats, justement.
L'explication qu'il donne est la suivante. Il s'agit d'un couple qui s'est dégradé inexorablement depuis plusieurs mois, avec des tensions de plus en plus fortes. Et c'est dans le cadre d'une énième dispute conjugale que les choses ont mal tourné et que celui-ci se retrouve donc à l'origine de la disparition de sa femme. Tétanisé, quand il a repris ses esprits et qu'il a réalisé son geste, quand il a réalisé ce qu'il avait fait, il a tout de suite pensé à ses enfants. Il n'a pas voulu leur infliger ce regard terrible, cette vision de ce corps inanimé de leur mère, et donc il s'est dit, il faut pas qu'ils ne voient ça, donc je dois déplacer le corps. Finalement, ce qui s'apparente plus ou moins à un crime passionnel.
Et pourtant, Cédric Jubilat a passé ses 5 dernières années à clamer son innocence. « Je n'ai pas tué Delphine », disait-il encore à l'ouverture de son procès, en septembre 2025, avant d'être condamné à 30 ans de prison. Alors, lorsque ses aveux paraissent en une de la Dépêche du Midi ce lundi 6 juillet, tout le monde est surpris, la famille, les amis, mais aussi le parquet général de Toulouse et même l'ancien avocat de Cédric Jubilat.
Surpris, sidéré, on ne s'attendait pas, écoutez. Nous,
Maître Alexandre Martin.
Sur le fond, effectivement, c'est une grande surprise, tant nous avions en face de nous depuis 5 ans un homme qui a toujours clamé son innocence.
Il faut dire qu'en 5 ans, Cédric Jubilat a été interrogé à de multiples reprises, comme le rappelle Mathias Tesson, journaliste police-justice à BFM TV.
Il y a eu de très nombreuses occasions de prendre la parole, il y a eu son placement en garde à vue, il y a eu les différents interrogatoires devant les magistrats instructeurs, il y a eu évidemment ce procès de première instance où il a été questionné très régulièrement sur cette question. Rendez-vous compte, même confronté au récit de son fils Louis, qui, à l'occasion du procès de première instance, avait écrit une lettre à la présidente de la cour d'assises, dans laquelle il demandait à son père de fournir des explications, de passer aux aveux, de dire toute la vérité, même confronté à son propre fils, Cédric Jubilat, il n'a jamais avoué les faits.
Et Cédric Jubilat a même parfois fourni des explications alternatives.
Il y avait la piste de l'amant, puisque Delphine et Cédric Jubilat allaient se séparer au moment de la disparition de l'infirmière. Et Delphine Jubilat était sur le point de refaire sa vie. Cédric Jubilat n'a pas manqué de laisser entendre que peut-être cet amant pouvait éventuellement avoir une responsabilité. Il y a eu la piste aussi de la fuite, pourquoi pas vers l'Espagne, vers un autre pays. Cédric Jubilat avait pu laisser entendre cette hypothèse comme étant crédible.
Le corps de Delphine Jubilat n'a jamais été retrouvé, mais même sans aveu, plusieurs indices avaient permis à la cour d'assises de reconnaître Cédric Jubilat coupable. Il y a le fils du couple, oui, qui décrit une scène de dispute la nuit de la disparition, mais il y a aussi des cris entendus par des voisins. La paire de lunettes de Delphine, retrouvée brisée en plusieurs morceaux, son téléphone, localisé autour de la maison familiale, avant de cesser d'émettre. Alors certes, une compagne de Cédric Jubilat, ainsi qu'un codétenu, assurait aussi qu'il avait admis, devant l'une comme devant l'autre, avoir enterré Delphine, près d'une ferme qui a brûlé, mais Jubilat balaye ensuite, des blagues. Tout de même, une autre petite amie assure qu'il lui a raconté, au parloir, avoir étranglé sa femme, mimant une clé de coude. Ce qu'il nie encore. Mais alors, Pourquoi, tout à coup, reconnaître son rôle dans la mort de sa femme ? D'après l'avocat, la démarche s'est faite de manière progressive lorsqu'il a commencé à assurer la défense de Cédric Jubilard après le procès.
Moi, je l'ai rencontré il y a environ 6 mois. Il m'a désigné comme avocat. Je suis allé le voir régulièrement à la maison d'arrêt, presque chaque semaine, depuis le mois de janvier. Je l'ai écouté, j'ai échangé avec lui, j'ai appris à le connaître, j'ai tissé une relation de confiance. Et progressivement et assez rapidement, j'ai ressenti que celui-ci avait le besoin profond de parler. Il était verrouillé quelque part psychologiquement depuis le début.
Depuis le début, il avait besoin et envie de parler, dit Maître Debuisson, qui précise avoir amené son client à s'exprimer avec l'aide d'une tierce personne, quelqu'un qui va le voir en prison, on n'en sait pas plus. Mais l'avocat ne s'arrête pas là. Pour lui, si son client a attendu si longtemps avant de parler, c'est parce que l'enquête a été bâclée.
Il a été acculé, il a été brutalisé aussi, sur le plan intellectuel et psychologique par des enquêteurs et des magistrats. Et au départ, effectivement, il s'agit d'un fiasco, puisque... Cela sera confirmé dans les prochaines semaines et les prochains mois à travers les révélations qu'il fera et toutes les déclarations très précises et circonstanciées qu'il fera auprès des enquêteurs et des magistrats. Nous pourrons constater qu'il y a eu des anomalies, des failles terribles de la part de l'enquête qui auraient pu conduire à la culpabilité avérée de M. Jubilard dès les premiers jours, les premières semaines. Ils sont vraiment passés à côté du dossier.
L'enquête, justement, doit-elle reprendre ? Elle est close, le procès d'appel doit se tenir en septembre. Mais pour les avocats de Cédric Jubilard, ce procès est désormais impossible. Ils estiment que tout est à reprendre. C'est la présidente de la cour d'assises de Toulouse qui peut ordonner un supplément d'information et demander au juge d'instruction de réentendre Cédric Jubilard. En parallèle de cet interrogatoire, elle peut aussi demander de nouveaux actes d'enquête, des fouilles, des auditions de témoins, des reconstitutions. Mais prudence, car il y a bien cette lettre adressée aux avocats, mais Cédric Jubilard va-t-il passer aux aveux devant le juge ? Va-t-il désigner l'endroit où se trouve le corps ? Le corps va-t-il effectivement être retrouvé ? Cédric Jubilard a reconnu qu'il a bien utilisé la voiture de Delphine, la Peugeot 207 blanche, pour transporter le corps. Il dit désormais vouloir donner toutes les précisions utiles à la vérité. Et c'est ce qu'attendent les parties civiles, Pauline Rongier et l'avocate d'Emmy, la meilleure amie de Delphine Jubilard.
La première nouvelle avec ses aveux, c'est pas d'avoir la certitude qu'il est coupable, parce que ça, on l'avait déjà, c'était évident, le dossier ne laissait absolument aucune place au doute. C'est le fait de se dire que, enfin, on va savoir où est le corps de Delphine.
Bonjour Carole Maslia.
Bonjour.
Vous êtes avocate pénaliste au barreau de Paris. Ce sont donc les avocats de Cédric Jubilard qui ont obtenu de lui ses aveux, en tout cas cette confession. Comment ont-ils pu, eux, réaliser en quelques mois ce que les enquêteurs ont échoué à faire en plusieurs années ?
Alors ça, c'est la version officielle d'un lien de confiance qu'ils auraient tissé depuis quelques mois et qui aurait conduit M. Jubilard à formuler des aveux. Un changement de conseil induit un changement de stratégie.
Un changement de conseil parce que ces avocats-là, il les a choisis à l'issue du procès qui l'a condamné à 30 ans de prison.
Évidemment, il y a un lien de confiance. Mais c'est surtout, vous savez, ce n'est pas un lien d'amitié. Le lien avec l'avocat d'abord est votre porte-voix. C'est celui qui va vous représenter. En fait, il faut lui dire, voilà, quel est votre intérêt ? Vous avez tenté une première stratégie qui a été manifestement voué à l'échec et qui a conduit à votre condamnation. Peut-être serait-il opportun d'envisager les choses autrement. Et si vous faisiez un premier pas vers les juges, si vous expliquiez le contexte, si vous expliquiez que vous avez, par exemple, caché le corps pour éviter que les enfants, à nouveau, traumatisent vos enfants. Donc, si vous voulez, il faut convaincre, la capacité de convaincre, que ça peut être mieux, et en tout cas, en l'occurrence, ça ne peut pas être pire. Et donc, c'est une nouvelle stratégie qui consiste, à mon sens, à faire amende honorable, à faire un premier pas vers les juges et à reconnaître finalement ce qui était une évidence. Il n'y a pas de scoop. S'il a été condamné à 30 ans de prison, c'est bien quand même qu'il y avait des éléments probants au dossier qui ont conduit la cour d'assises à entrer en voie de condamnation. Il faut bien le comprendre. Donc là, c'est un changement. En disant, voilà, j'ai écrit une lettre à mes avocats. Cette lettre, comme vous avez pu le constater avant même d'atterrir devant le bureau du président de la cour d'assises, arrive à la dépêche du midi. Enfin, je sais pas, ça sent quand même une forme de manipulation, mais peut-être que je me trompe et que ce sont des aveux spontanés, que 5 ans après, pris de remords, Monsieur Jubilard aurait eu un sursaut de dignité pour offrir à son épouse une sépulture digne.
Donc vous n'êtes pas très convaincu par cette version de changement d'état d'esprit de Cédric Jubilard, mais si jamais je vous suis et qu'on considère que c'est une stratégie de ses avocats, quelle est l'idée derrière cela ?
L'idée, à mon sens, lorsque vous écoutez très attentivement leur conférence de presse, ils commencent à expliquer qu'à la suite d'une énième dispute, monsieur aurait participé à la disparition de madame. Donc en fait, une énième dispute, ça veut dire que finalement on n'aura qu'une seule version et pas deux, et qu'on va probablement plaider l'homicide involontaire, c'est-à-dire par accident.
C'est donc une peine beaucoup moins importante que celle à laquelle il peut être condamné pour meurtre ?
Ah oui, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir.
C'est-à-dire ?
Puisque ça relève d'un accident, donc c'est... Ce serait quelques années au maximum.
Il y a donc cette idée de parler d'un accident, comme vous dites, et puis il y a cette expression utilisée par l'un des deux avocats qui dit que c'est un crime passionnel, expression que l'on n'entend plus beaucoup dans la bouche d'avocats aujourd'hui, lorsqu'il s'agit notamment de féminicides, de ces hommes qui tuent leurs femmes, leurs ex-compagnes. On y voit souvent un fait de société, c'est de cela qu'il s'agit. Mais lorsque cet avocat dit crime passionnel, vous êtes étonné, vous ?
Non, d'abord, je réfute absolument ce qualificatif. Moi, je ne plaide pas sur un crime passionnel. Un crime est un crime. Ensuite, on peut expliquer les tenants, les aboutissants, les circonstances qui ont conduit à la mort de quelqu'un. Mais il n'y a pas de passion dans le fait de d'ôter la vie à quelqu'un. Donc, si vous voulez, même juridiquement et même d'une manière, la jurisprudence aujourd'hui ne retient absolument pas ce qualificatif comme si c'était une circonstance atténuante.
Mais justement, cette expression-là est assez peu utilisée aujourd'hui. Est-ce que c'est une erreur à vos yeux en termes de stratégie de défense de l'utiliser devant des médias ?
Non, je ne me permettrai pas de critiquer un confrère et le choix de défense pour lequel il opte sur un dossier qu'il connaît et qu'il maîtrise. Maintenant, aujourd'hui, je crois qu'on essaye, si vous voulez, de donner une apparence d'honorabilité, d'humanité à quelqu'un qui, pendant 5 ans, a manipulé, menti et qui n'a pas été capable, si vous voulez, aujourd'hui, d'assumer ses responsabilités. Aujourd'hui, donne un début de commencement d'explication, mais très concrètement, jusqu'au moment où le corps aura été trouvé, identifié, et peut-être qu'au niveau de la médecine légale, il y aura, même si ça fait 5-6 ans, il y aura une expertise des ossements qui pourrait aider la justice à comprendre dans quelles conditions cette malheureuse a été tuée.
On a entendu l'avocat de Cédric Jubilard, Pierre Debuisson. Il a expliqué qu'il avait été aidé par une tierce personne, quelqu'un qui rend visite à Cédric Jubilard en prison. On ne sait pas qui est cette personne, mais c'est habituel qu'un avocat, un professionnel, s'appuie sur une personne qu'on imagine peut-être être un proche, une proche de son client, pour l'amener à parler.
Là, franchement, on est dans le cadre de supputation. Je pense qu'il va être convoqué. Je pense qu'il va avoir un supplétif. Je pense qu'il va être donc auditionné, qu'il va expliquer et que peut-être que les masques vont tomber. Mais très concrètement, monsieur a reconnu aujourd'hui de manière formelle ce que tout le monde savait, à savoir qu'il a tué son épouse. Maintenant, les circonstances qui ont conduit à le faire, c'est important, il va essayer de les minimiser, il va essayer de se victimiser. C'est ce qu'il fait d'ailleurs dans le cadre déjà de la saisine de ses nouveaux avocats. Donc l'enquête s'est mal passée. Si les enquêteurs avaient été bien, en 48 heures, il aurait avoué. Les conditions carcérales sont indignes. Même un terroriste, on ne le traite pas comme ça.
Oui, parce qu'il est en prison à l'isolement.
C'est vrai qu'il est à l'isolement, oui, depuis plusieurs années. C'est aussi peut-être dans son intérêt, c'est aussi peut-être pour le protéger de d'autres, et c'est peut-être aussi parce qu'on craint des choses. Donc, si vous voulez, il y a cette attitude quand même de victimisation, et en fait, donc c'était un mari trompé, floué, qui a beaucoup souffert, et qui, d'ailleurs, dans la conférence de presse, il disait à un moment quand il a repris ses esprits. Et ça, c'est important.
Après avoir tué sa femme.
Oui, il a repris ses esprits. Reprendre. Donc, si vous voulez, vous avez déjà un peu la plaidoirie, en tout cas la trame de la plaidoirie de la défense. Il a été pris d'un coup de folie ou une bouffée délirante. Il a agi par impulsion et il a immédiatement regretté son geste. Et après, il s'est enferré dans une espèce d'engrenage de mensonges et tout. Voilà ce qui va être développé. Est-ce que ça va marcher ? Ça, personne ne le sait. Il y a le principe de l'oralité des débats et il y a le principe de l'intime conviction née devant la cour d'appel. Donc, il y a évidemment toujours des magistrats professionnels. Il y aura 9 jurés au lieu de 6. Et on verra à l'issue des débats si la culpabilité est retenue et quelle est la peine qui sera prononcée, si elle sera minorée ou confirmée. Ça, je ne peux pas vous le dire.
Débat qui devait débuter au mois de septembre de cette année. C'était la date de l'ouverture du procès en appel. Mais maintenir ce débat à cette date-là serait grotesque, disent les avocats de Cédric Jubilard. Il faut repousser ce procès. Il n'y a pas le choix à vos yeux.
Je suis absolument d'accord là-dessus. Je pense qu'il y a des investigations qui sont très importantes à mener. Je pense qu'il faut trouver le corps. Je pense que donc il y aura des fouilles. Ensuite, il faudra le confier malheureusement donc à la médecine légale pour voir ce qui est exploitable de ce qui ne l'est pas. Il faut interroger Monsieur Jubilard. Peut-être qu'il y aura de nouvelles expertises. Ça me semble vraiment très compliqué et peut-être même contre-productif que l'audience initiale soit maintenue en septembre.
Merci Carole Maslia d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une.
Merci à vous, au revoir.
Merci à Karina Duchesne pour la réalisation de ce podcast, à Naël Aubeuf qui m'a aidé à le préparer, et merci à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode du Titre à la Une. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à nous laisser une note ou un commentaire. Rendez-vous tous les jours sur les plateformes d'écoute, sur notre site internet bfmtv.com et sur notre application. À demain.